l'atelier de l'histoire.
Léon l'Africain en débat.
Mémoire d'un continent. Isabelle Godino, Elikia Mbokolo.
Léon l'Africain, cet auteur entre deux mondes au moins, entre deux religions, entre deux cultures, Al-Hassan Al-Wazan, de son nom arabe, Léon l'Africain donc a été un personnage tout à fait exceptionnel à la charnière du 15e et du 16e siècle. Il faut imaginer ce jeune musulman né en Espagne, qui a vécu au Maroc et qui va vivre auprès du pape Léon X dans l'une des cours les plus compliquées de l'Europe, au milieu de Florentin, de drames, de complots, de toutes sortes, et qui réussit à échapper à l'Italie pour revenir au Maghreb, on ne sait pas trop où, probablement à Tunis, où il est mort à une date qu'on ne connaît pas. Ce personnage s'est présenté lui-même. Il s'est présenté lui-même dans un conte qui, d'une certaine manière, raconte et dit sa complexité, et nous allons tout de suite écouter ce conte.
Où les oiseaux parlaient, il y avait un gentil et vaillant petit oiseau qui était surtout doué d'une intelligence admirable. Par sa nature, il avait ceci de particulier qu'il pouvait aussi bien vivre dans l'eau parmi les poissons que sur terre parmi les autres oiseaux. À cette époque, tous les oiseaux étaient tenus de verser chaque année un impôt à leur roi. Aussi cet oiseau conçut-il le projet de ne rien payer du tout. Au moment où le roi lui envoya un de ses fonctionnaires pour percevoir l'impôt, le petit malin lui donna des paroles en paiement et prenant un grand vol, il ne s'arrêta pas avant d'entrer dans la mer où il se cacha au sein des eaux. Les poissons, voyant cette chose nouvelle, accoururent tous en grande troupe autour de lui pour connaître la raison qui l'avait amené à venir chez eux. « Hélas !» leur répondit l'oisillon, « ne savez-vous pas, braves gens, que le monde en est venu à un point tel qu'on ne peut plus vivre sur terre. Notre grand lâche de roi, par un caprice étrange qui lui est venu en tête, a voulu m'écarteler vivant malgré ma bonté, et bien que je sois le plus digne et le plus honnête gentilhomme qui soit parmi les oiseaux. » Et il poursuivit. « Pour l'amour de Dieu, acceptez que je loge avec vous, afin que je puisse dire que j'ai trouvé plus de bonté chez les étrangers que chez mes propres parents et chez ceux de ma race. » Les poissons se contentèrent de cela et l'oiselet passa une année avec eux sans avoir aucun impôt à payer. Au bout de ce temps, quand vint le moment de la perception des impôts, le roi des poissons envoya l'un de ses serviteurs à l'oiselet pour l'informer de la coutume et lui demander le montant de sa redevance. « C'est bien juste, » dit le petit oiseau. Et prenant son vol, il sortit de l'eau, laissant là son interlocuteur le plus penaud du monde. En fin de compte, toutes les fois qu'on venait demander à l'oisillon l'impôt de la part du roi des oiseaux, il s'enfuyait sous l'eau et toutes les fois qu'il lui était demandé par le roi des poissons, il revenait sur terre.
Voilà donc comment on peut voir la manière dont Léon l'Africain, appelons-le ainsi, se présente. Nous avons à nos micros de Mémoire d'un continent François Pouillon, qui a organisé en 2003 un colloque sur le personnage et qui a dirigé le livre Léon l'Africain, qui ramasse les textes les plus importants de ce colloque. François-Xavier Fauvel, qui est du CNRS et qui est spécialiste de l'histoire de l'Afrique australe, de l'historiographie africaine et des problèmes théoriques et méthodologiques qu'elle pose, et Claude Lefébure, qui est le directeur du Centre d'histoire sociale de l'islam méditerranéen. Au téléphone avec nous depuis Hambourg, Dietrich Rauchenberger, qui a participé à ce colloque et qui est un historien du texte. Nous verrons tout à l'heure comment il travaille. Alors Claude Lefébure, quand on lit ce conte, qui est un très beau conte, hein, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les chercheurs, parce que ça nous dit beaucoup de choses sur le personnage de Léon l'Africain.
Le conte, faisons-lui un sort. Le sort que lui a fait, lors de notre colloque, comme dans son livre, Nathalie Zeman Davis. Elle l'en tient pour... Il a inventé ça. Il l'aurait inventé, non seulement c'est un conte qui parle de la ruse, mais il l'aurait inventé par ruse. Et par exemple, elle dit sa source serait Jaïse, où on voit que l'autruche est à la fois un dromadaire par ses pieds et que c'est un oiseau par ses ailes. Je trouve ça très savantissime. Quand on est un monsieur revenu de Grenade par la Reconquista, quand on a parcouru le Maroc dans tous les sens, quand on avait une petite fermette dans le Rif au-dessus de Fès, on est en mesure d'avoir partagé une culture populaire qui ne s'écrit nulle part, qui recueillit bien plus tard, 4, 5 siècles après, mais des histoires de chauves-souris, qui sont à moitié des oiseaux et à moitié des souris. Ça nous vient peut-être des arbres. Bon. Mais le populaire marocain d'aujourd'hui le connaît encore. Quand c'est pas la chauve-souris, ça sera d'autres animaux. Je veux dire par là que dans la culture populaire marocaine, maghrébine en général, mais les gens connaissent ces histoires. L'autre aspect que je voudrais dire, c'est la fortune. Lui, il parle d'un oiseau amphibie. Ben, vous savez, le fabuliste Florian, l'héritier de Molière, lui, il parle pas d'oiseau amphibie, il parle de poisson volant. Mais l'histoire est la même. C'est une façon de nous raconter. Quand on veut désobéir, on est un poisson. Quand on se cache dans la mer, on est un poisson. Quand les poissons, à leur tour, veulent vous faire payer le tribut, c'est ce qui arrive à l'oiseau, on remonte dans le ciel. Voilà, c'est une sagesse assez populaire, assez simpliste. Il n'y a pas besoin de supposer qu'il l'a inventé par ruse. Je pense qu'il est, à ce moment-là, une fois de plus, traducteur de la culture populaire, comme d'autres fois dans son recueil.
Dietrich Rachenberg, vous êtes à Hambourg, n'est-ce pas ?
Oui.
Vous avez beaucoup travaillé sur le manuscrit et on voudrait que vous nous expliquiez un peu. Ce manuscrit a une histoire, hein. Ce texte a une histoire longue, avec toute une série de rebondissements. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Quelles sont les grandes phases et la manière dont on l'a lu, dont on l'a réécrit, dont ça a été reçu, traduit dans toutes les langues, disons jusqu'à l'érudition actuelle ?
Le manuscrit fut d'abord un secret de l'État vénitien, écrit en 1526 et puis disparu. Jusqu'au milieu de ce siècle, de ce 16e siècle, jusqu'au moment où Ramusio, fonctionnaire de cet État vénitien, ait pu le trouver et ait reçu la permission de le publier. Alors jusque-là, les Vénitiens ont caché ce manuscrit avec tous ses secrets. En 1550, Ramusio l'a publié, l'a imprimé, et puis c'est devenu la base de la connaissance de l'intérieur de l'Afrique chez nous en Europe, dans toute l'Europe. Il n'a pas eu de concurrence pour 3 siècles. Et le manuscrit lui-même est revenu en surface en 1931 dans une vente aux enchères à Rome. On peut le retracer toujours à Venise jusqu'à la fin du 18e, puis il a fait un stage en Grande-Bretagne d'un siècle à peu près, pour revenir en Italie en 1931, et là, il a été reconnu comme vraiment base des versions imprimées qu'on connaît, et a été acheté par l'État italien. Depuis ce temps, il se trouve à Rome, à la Bibliothèque nationale centrale, et a été négligé. On l'a laissé là, on l'a étudié de temps en temps, surtout une dame, une géographe italienne, Angela Corazzi, l'a étudié au cours d'une 40aine d'années, mais sans publier quelque chose de plus volumineux. Et il y a eu pas mal de savants de passage à Rome qui l'ont regardé, feuilleté. La visite la plus intense est celle d'Epolar, le traducteur, le dernier traducteur en français. Mais lui aussi, il n'a eu que 2 semaines pour l'étudier. Voilà, et puis le hasard a voulu que moi, je le retrouve en 1993. Voilà, et à partir de là, j'ai vu assez rapidement qu'il y a une grande différence par rapport aux versions imprimées, et j'ai comparé les 2 versions, c'est le travail que j'ai fait.
Il existe beaucoup de traductions de cet ouvrage, traduction directe depuis le manuscrit ou traduction de traduction.
Tout est parti de la première version imprimée. Il n'y a eu aucune publication sur la base du manuscrit. Tout est parti de cette version imprimée de 1550. Et les différences n'ont été reconnues que ces dernières années.
François Pouillon, ce livre donc a connu beaucoup de manières d'être reçu. Alors si on vient par exemple à la réception par les chercheurs modernes, mais aussi les chercheurs qui font des recherches pour la science et des chercheurs qui font des recherches pour d'autres buts, notamment romanesques, comment l'ont-ils lu et qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Nous avons évoqué dans une précédente émission le succès qu'a rencontré le roman de Malouf, Léon l'Africain. Comment est-ce que ces lectures ont été faites? Et qu'est-ce que c'est vraiment...
Il faut marquer d'une pierre blanche quand même une des premières lectures sérieuses de cette affaire-là, c'est celle de Louis Massignon, qui, au début du siècle, au moment de la conquête du Maroc, prend très sérieusement cette publication et la regarde par rapport au terrain. Et c'est un travail déjà très érudit, très avancé, qui ne dispose pas encore du manuscrit, qui est encore dans les limbes. Mais effectivement, c'est après la publication du roman de Malouf qu'on s'interroge non plus sur le texte, son exactitude, sa précision, etc., mais sur le personnage, sur son identité, qui nous parle aussi du texte. Puisque le problème, c'est à qui a-t-on affaire dans cette question-là? Et de fait, des différents travaux contemporains qui sont produits sur l'Africain, ces différents profils qui se dégagent, différentes figures, ne se recouvrent pas complètement et sont même éventuellement assez polémiques. Il est de fait que les Marocains vont avoir tendance à élever le statut du personnage et en faire en quelque sorte un érudit, un savant, et non pas seulement un témoin ou un voyageur au ras du sol. Et c'est un petit peu la tendance, effectivement, d'Oum El Banin Seiri qui le fait monter dans l'échelle savante. Alors que Nathalie Davis le montre plutôt comme un personnage joueur, intermédiaire, dans les interstices des civilisations, un personnage cosmopolite comme on aime aujourd'hui en imaginer, en concevoir, ces gens qui passent d'un monde à l'autre, d'une érudition à l'autre, comme cet oiseau qui va dans la mer. Mais il y a un autre personnage qui est tout à fait fondamental avec Léon, c'est Léon le Marocain. Et il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a abjuré l'islam et que quand on abjure l'islam, cette chose est punie de mort. C'est-à-dire qu'on ne prend pas d'un bon œil un personnage qui est sorti de l'islam et qui est allé donner des informations extrêmement précises au monde de la chrétienté, extrêmement précises et pas toujours plaisantes. Parce que ces voyages de Léon à travers l'Afrique du Nord et l'Afrique sont pleins d'anecdotes et d'anecdotes parfois cruelles pour les populations que l'on traverse. Et notamment sur la moralité des femmes de certaines régions. Et ce n'est pas facilement que les ressortissants de cette région se font dire que leurs aïeuls avaient des complaisances avec les voyageurs, en fait, des choses comme cela. Donc les Marocains et les musulmans sont dans une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une autorité scientifique considérable, appuyée par toute l'érudition historique, et qui est un traître. Alors comment faire pour récupérer ce personnage? Alors c'est le travail de notre ami Alain Roussillon, le regretté Alain Roussillon, qui explique comment dans les années 30, un petit peu à l'époque où on découvrait le manuscrit, les Marocains se sont mis à vouloir se réapproprier ce personnage comme un Marocain. Et évidemment, on ne parlait plus de Léo Africanus, mais de Hassan El Ouazzane. On lui redonnait son identité originaire. Et c'est comme ça que, à partir de la traduction des Polars, les contemporains au Maroc ont fait une traduction arabe qui devient une source de l'histoire du Maroc pour des savants arabisants.
François-Xavier Fauvel, vous disiez hors micro que l'un des problèmes qu'on a eu avec ce texte, c'est que chacun le lisait à partir un peu de son point de vue ou de sa discipline, histoire et anthropologie, ou de son terrain, le Soudan, le Maroc, la Méditerranée. Est-ce que ces lectures croisées éclairent la lecture personnelle que vous, par exemple, vous pouvez faire de ce qu'il a dit sur les pays du Soudan?
Il est tout à fait clair qu'un personnage comme celui-ci, qui est un personnage éclaté entre plusieurs mondes, qui a lui-même une biographie fragmentaire, qui est d'ailleurs très difficile à reconstituer, qui est un passeur à plus d'un titre entre la période arabo-musulmane et la cartographie européenne moderne. moderne, entre les rives de la Méditerranée. Un personnage comme celui-ci, évidemment, suscite des lectures croisées qui s'enrichissent les unes les autres et qui peuvent être tout à fait contradictoires les unes avec les autres. Une évidence de ce point de vue-là, c'est qu'on n'a pas du tout la même lecture sur l'œuvre de Léon qu'on travaille sur le nord du Sahara ou qu'on travaille sur le sud du Sahara. Pourquoi ? Parce que Léon, c'est à la fois un érudit marocain, c'est aussi un compilateur pour le reste des régions qu'il n'a pas visitées. Il a ces deux statuts-là, comme il a de multiples identités et comme il a de multiples histoires qui peuvent être lues de différentes façons. Alors, je crois que le point sur lequel il faudrait insister, c'est la formidable réception qui a accompagné la parution du livre en 1550. On ne mesure pas assez bien ça aujourd'hui. La publication de Ramuzio s'est accompagnée d'une foule de publications et de traductions en toutes les langues, mais aussi d'une espèce de bombe cartographique. C'est-à-dire que toute la connaissance européenne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour ces régions du Soudan, s'est appuyée sur la carte de Gastaldi, directement tirée de Léon l'Africain. Donc une formidable réception. On a pris Léon comme le livre qui était en quelque sorte donné en offrande au monde occidental pour arriver à enfin percer à jour le Soudan, l'Afrique subsaharienne. Ce qui est intéressant, c'est que du fait même de ce parcours en zigzag, de cette biographie fragmentaire, cette transmission est faite finalement sur un profond malentendu sur le personnage lui-même et sur son travail.
Dietrich Rauenberger, vous allez avoir le dernier mot. Quand on écoute tout ça, pour les non-spécialistes du personnage, on a l'impression qu'il y a du mal finalement à conclure sur lui. Est-ce que vraiment c'est impossible de conclure ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez trouvé le fil conducteur qui permettrait d'y voir un tout petit peu plus clair?
Je dirais qu'il y a deux façons fondamentalement différentes d'approche. C'est celle de Amin Malouf, celle de, disons, presque de l'identification avec le personnage, de lui faire une confiance presque totale. Et c'est un peu la mienne aussi. Et l'autre, c'est celle de la distance, de la méfiance, de la recherche d'erreurs, de fautes, de tricheries. Alors, on ne peut pas vraiment les combiner, les deux. Il y a deux approches, et moi, j'ai préféré celle d'aller très près du personnage, au risque de perdre une distance nécessaire, mais ce n'est que comme ça qu'il a été possible de trouver, par exemple, le manuscrit, de trouver les autres autographes de Léon et de comprendre certains petits détails et peut-être l'ensemble du personnage.
Dietrich, juste un mot. On ne sait pas à quoi il ressemble. Or, vous avez un texte, l'hypothèse du tableau, qui pose la question de savoir si l'un des tableaux que vous avez étudié, est-ce que c'est une représentation de lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre dont on peut supposer que finalement il n'a rien à voir avec Léon l'Africain?
Alors, à mon avis, c'est lui. Et j'ai publié mes arguments. Il y a eu d'autres propositions, mais les autres propositions ont rapidement échoué, ne sont pas très solides. Alors c'est une hypothèse, parce que il n'y a pas son nom sur le tableau, il n'y a pas de documents prouvant son identité, mais à mon avis, c'est très très probable que ça soit vraiment le visage d'un oriental au milieu des cardinaux du Vatican.
Voilà, ce tableau, c'est le tableau de Sebastiano del Piombo, qui s'intitule « Portrait d'un humaniste » et qui nous donne donc une personnalité. Alors moi, je serais assez tenté de vous suivre parce que ça ajoutera encore au côté romanesque du personnage. Merci beaucoup Dietrich Rauenberger, merci François Pouillon, François-Xavier Fauvel, Claude Lefébure pour ces débats passionnants autour de ce personnage, Al-Hassan Al-Wazan ou Léon l'Africain, auteur d'un ouvrage publié en 1550, Géographie de l'Afrique, et qui aujourd'hui encore, vous vous en rendez compte, continue de faire couler beaucoup d'encre.